Salut, bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1 à Québec. Bon lundi, en espérant que vous ayez passé un beau week-end, un bon début de semaine et certainement que vous passerez un bon moment parce que puisque ce soir, c'est les lundis soirs avec Maître Marc Bellemare qui est là avec nous. Maître Bellemare, bon lundi.
Oui, comment ça va?
Ça va très bien. Ah. Merci d'être
là. Oui, on est lundi. Il y a eu un temps où je disais vendredi, mais là, je dis lundi tellement j'ai hâte.
Ouais. Est-ce que c'est votre journée préférée de la semaine, le lundi?
Ben, en tout cas, disons que te parler, c'est déjà un plaisir.
Oh.
Parler aux auditeurs, à cette foule qui nous écoute en ce moment,
ouais.
C'est très bien. Oui, c'est un beau début de semaine, honnêtement. Là, il se passe quelque chose de sympathique. On fait une revue de l'actualité, on parle de questions de justice, puis...
Puis plein d'autres.
Je pense que les gens apprécient.
Oui, on parle de plein d'autres sujets. Puis je vais y aller d'un côté peut-être un peu plus personnel. Vous avez été avocat toute votre vie. Est-ce qu'un jour, ça vous est passé par la tête de faire carrière dans les médias, que ce soit à la télé ou encore à la radio comme animateur?
Mais quand j'étais à l'université, je pensais peut-être devenir journaliste à un moment donné. Ça m'intéressait beaucoup l'actualité. J'en faisais un peu quand j'étais étudiant.
Ouais.
J'écrivais une fois par deux semaines dans le journal étudiant qui s'appelait Le Continua, qui est à l'Université de Montréal. Écoute, on avait un tirage à l'époque de 32 000 exemplaires. On avait le même tirage à l'Université de Montréal qu'on avait que Le Devoir.
Oh boy, OK, wow!
On n'avait pas une portée provinciale ou dans l'ensemble du Québec, mais quand même, il y avait beaucoup de lecteurs. Puis moi, j'écrivais deux pages là-dedans. Ça me faisait sortir de la rigueur du droit. Ça me permettait d'écrire puis de couvrir des questions d'actualité, des grèves qu'il y avait sur le campus, puis des problèmes dans certaines facultés. Fait que j'aimais bien ça. Puis là, je me suis dit, ça m'intéresserait peut-être d'être journaliste. Mais non, j'ai mal tourné. Je suis devenu avocat. Puis Ça a assez bien été de ce côté-là aussi.
Oui, c'est ça. Mais vous avez fait une belle carrière. Mais je me suis posé la question. Je me suis dit, bon, à un moment donné, il est devenu politicien dans sa vie. Vous avez aussi voulu être maire de Québec, fut un temps. Je me suis dit, peut-être que les médias lui ont déjà passé par la tête parce que vous en faites régulièrement. En fait, on vous entend, on vous voit à la télé, on vous entend à la radio régulièrement sur les ondes de boulevard, puis des fois sur des sujets sur d'autres stations de radio. Fait que, ben, je suis content d'avoir parlé de ça avec vous, Maître Bellemare. Vous êtes un être sympathique. Les gens vous apprécient. J'ai été faire un tour au Rempart vendredi. C'était la soirée Boulevard au Rempart. Puis il y a des auditeurs qui m'ont demandé de vous saluer et de vous dire à quel point ils vous apprécient chaque semaine.
Ah, bien, c'est très gentil. C'est réciproque. Mais je dois te dire que du média, j'en ai toujours pas mal fait. Quand j'ai commencé, j'étais avocat en 79. À l'époque, je faisais de la radio à CKRL. On avait une émission hebdomadaire, on parlait des pluies acides, toutes sortes de patentes que dans le temps, les gens disaient « c'est quoi cette affaire-là? » On était un peu les précurseurs. Hein? C'est une radio communautaire, mais qui avait quand même un bon tirage à Québec. Et je faisais une émission toutes les semaines avec Régent Lemoine, qui est un gars assez connu à Québec.
Ben oui, que j'ai reçu dans Marceau le soir, il y a de ça trois semaines.
C'est vrai? Bon, ouais. Ben, alors Régent, salutations à Régent, qui est devenu conseiller municipal, puis qui a été, on l'appelait le maire de Saint-Roch à un moment donné, tellement il y avait de l'importance. Après ça, j'ai travaillé avec Mme Giguère. Je ne sais pas si tu te souviens de ça, c'est JRP.
Oui.
Mme Giguère qui avait son studio dans sa maison à l'île d'Orléans, puis dont on entendait le chien aboyer à tour de bras pendant ses chroniques. Elle avait un très fort tirage aussi à Québec. J'ai travaillé avec André Arthur. J'ai fait des chroniques avec Camille Sanson aussi, à l'époque à CKCV. Après ça, elle était à CHRC. Après ça, écoute, j'ai toujours fait du média. Je ne me souviens pas d'avoir passé plus qu'un an sans faire du média de façon régulière, sans compter les entrevues un peu partout là, dans des sujets d'actualité. Fait que, écoute, ça me permet d'avoir une certaine capacité de diffusion, donc donner une opinion sur des sujets d'actualité, des questions qui touchent le droit aussi, faire avancer les lois puis les tribunaux, sans être tout le temps là-dedans. Parce que je te dirais que moi, je regarde là, ce que tu fais le midi, ce que tu fais le soir. Puis de ce temps-là, on a un débrouillage de Cube TV. Là, je ne sais pas si tu vois ça. Je passais une partie de ma fin de semaine à écouter ça. Dutrisac, Martineau, Desrochers, Durocher, etc. Tu sais, les gens qui sont à Cube TV, là,
ouais.
Mario Dumont, écoute, ils sont, je pense qu'ils font 25 heures par semaine au micro.
Oui, bien
ça. Là, je ne sais pas comment tu fais pour être capable de te ressourcer. D'abord, aller chercher l'information pour pouvoir amener de quoi de nouveau dans tes interventions au micro. Donc, il faut que tu lises un peu, il faut que tu te documentes. Tu ne peux pas juste te fier à ce que tu entends
Non.
ici et là. Et aussi, verbaliser tout ça au micro. Moi, je te jure, là, je ne suis pas sûr que je serais capable de faire ça, moi, 20-25 heures par semaine.
Ouais. Ben, c'est peut-être l'habitude qui fait en sorte qu'on rentre dedans et qu'on s'en rend plus compte, mais c'est vrai. Juste avant l'émission, j'étais en train de parler avec un attaché de presse de conseiller à la Ville de Québec pour régler certains dossiers parce que ça a brassé la semaine passée, puis ça continue de brasser à l'Hôtel de Ville de Québec concernant l'ambiance et les discussions hors conseil et à l'intérieur du conseil. On aura l'occasion d'en parler, mais je pense que c'est l'habitude qui fait en sorte qu'on trouve pas ça si pire que ça. Mais oui, de l'extérieur, ça a toujours de l'air. Ouais, non, 7 jours sur 7, vous êtes obligé de tout le temps tout lire et tout ça. À un moment donné, ça rentre, puis on s'en rend comme plus compte. Là. Des fois, je pourrais même vous dire que à la fin des émissions, si vous me parlez le soir puis vous me dites « Hey, Yann, t'as parlé de quoi sur l'heure du midi? » Je m'en souviens pas. C'est comme si on faisait une page blanche pour le lendemain, parce qu'on ne veut pas garder ça. Des fois, l'actualité, c'est assez lourd. Fait qu'on ne veut pas garder ça en nous constamment. Fait qu'on fait comme quand on va laver notre char. On se lessive le cerveau puis on passe à d'autres choses. Hey, vous m'avez parlé de Camille Samson. Moi, je regarde des discours de Camille Samson encore à ce jour. Je ne vous dirais pas que je fais ça tout le temps, mais une fois par année, je tombe sur des discours de Camille Samson. Camille Samson, le politicien, lorsqu'il faisait des envolées à l'emporte-pièce là, lors de ses discours, est-ce que c'est un gars qui planifiait ses sorties ou il a toujours été un peu comme ça, quelqu'un qui bouillait de l'intérieur puis qui était tout le temps prêt à aller à la guerre constamment, juste quand il parlait de fiscalité, il voulait tout casser tout le temps. Là.
Mais il a été élu au début des années 70 dans le temps du Crédit social.
Ouais.
Il avait milité pour le Crédit social au fédéral. Après ça, il s'est présenté chef créditiste à Québec. Il a été élu, avec une certaine équipe, comme chef du Crédit social. Ça n'a pas trop bien fonctionné.
Non.
Après ça, il s'est présenté même libéral fédéral à une certaine époque avec Jean Chrétien, qui est un ami de longue date. Il m'avait tout raconté ça. Et lui, il a été des politiciens des années 70. Alors, moi, je me souviens de ces années-là. Là. Toi, c'est sûr que c'est plus loin pour toi, mais moi, je suis né en 56. Dans les années 70, j'assistais à des conférences, des discours de politiciens sur une scène, dans un sous-sol d'église, enfumé. Tu pouvais couper à boucan au couteau, parce que dans ce temps-là, le monde fumait pas mal dans les lieux publics, avec un micro puis du monde, des militants. Et Samson, lui, ça a été sa vie, là. Ses plus belles années, les années 70, il me racontait qu'il faisait des discours dans les sous-sols d'église, en Abitibi. Puis lui, son plaisir, c'était de sentir qu'il possédait le public. Il savait que s'il allait dire tel mot, le monde allait se lever de bout et applaudir. Puis il savait que s'il allait dire tel mot, il allait avoir des choux. Puis lui, c'était son plaisir. Puis c'était un bon orateur. Écoute, il avait vendu des autos, il avait toujours été dans le public. À un moment donné, il est tombé dans la politique, puis là, il y avait, c'était toujours les mêmes choses qui étaient répétées. Mais à l'époque, là, il y avait le pouvoir de la radio, qui était différent d'aujourd'hui. La télé, c'était, bon, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Fait que les politiciens communiquaient directement avec le public dans des assemblées publiques de ce type-là, qui se tenaient généralement en campagne électorale. Puis les campagnes électorales étaient beaucoup plus longues qu'aujourd'hui. Je pense que c'est 33 jours au Québec, puis 36 jours au fédéral actuellement. À l'époque, ça durait 2 mois, les campagnes électorales. C'était beaucoup plus long parce qu'il fallait qu'il parcourt un territoire immense. Mm-hmm. Et finalement, il a été battu. Il a été élu en 76 quand René Lévesque a été élu le 15 novembre 76. Il a été élu avec une brochette de députés créditistes. Et en 81, à l'élection où René Lévesque se présentait pour un deuxième mandat au Parti québécois contre Claude Ryan, qui venait d'être élu chef libéral, Samson a été battu. Il a été battu par un jeune candidat, je pense qu'il avait 23 ans, qui s'appelait Barry Frisé, là, un jeune là. Puis ça a scié les gens. Il était extrêmement malheureux de ça, d'avoir perdu son élection à Rouyn-Noranda, dans le comté de Rouyn. Et c'est ça qui l'a amené à la radio. Puis c'est là qu'il a commencé à faire de la radio à CKCV, qui avait ses studios dans le haut de la tour, je pense, de la Banque de Montréal, à la place Duville. Et c'est là qu'il m'avait appelé, puis il m'avait dit, « Monsieur Bellemare, ben là, j'étais jeune avocat à l'époque, il dit, « Monsieur Bellemare, il dit, vous parlez aux accidentés, vous parlez aux gens qui ont des problèmes, au monde ordinaire, alors j'aimerais ça qu'on puisse faire une fois par semaine une émission qui appelle, lui, une émission de service, où là, on donnait, le lundi, c'est un comptable, le mardi, c'est un ingénieur, le mercredi, c'est un dentiste, puis moi, je fais le jeudi. Exemple. Moi, je parlais de questions juridiques qui touchaient à l'aide sociale, le chômage, les accidents. Et c'est comme ça que je l'ai connu, puis on a filé, quand il était allé à CHRC, je l'ai suivi, et on a fait une bonne dizaine d'années ensemble. On a bien du fun. On a bien du plaisir à faire de la radio ensemble, Camille Samson et moi. Ça a été des belles années. Écoute, on n'analysait pas des phénomènes sociaux extrêmement complexes, là. On y allait au ras les pâquerettes, mais les gens aimaient ça. Les lignes étaient pleines. Il y avait 8 lignes locales, puis 8 lignes à l'extérieur, puis c'était 16 lignes, c'était full. On rentrait en onde, puis ça flashait à la grandeur de la console.
Ouais, mais il mettait ses tripes à la table, puis je me souviens d'une phrase de Camille Samson qui disait: quand on crève de faim, qu'on crève de faim en français ou en anglais ou dans d'autres choses, ça s'appelle crever de faim.
C'est ça. Ben les gens répondaient à ça.
Ben oui.
C'est le peuple québécois de l'époque. Puis même aujourd'hui, tu regardes, aujourd'hui, c'est un peu plus raffiné. On a des réseaux sociaux. On dit, ben, tu sais, crève de faim, crève de faim. Tu sais, la crise du logement, c'est quoi? C'est puis le discours de Pierre Poilievre au conservateur, c'est exactement ça. C'est
Ouais.
ça qui touche les gens.
Exact.
Poilievre a cette force, cette capacité, cette habileté de parler de choses ordinaires. Il dit, ce qui est important pour moi, c'est que la mère monoparentale paye son loyer à la fin du mois. Non, non, mais regarde, c'est un discours qui est près des gens et qui fonctionne parce que les gens, la majorité des gens sont là. La majorité des gens sont pas dans des voitures de luxe, là. Ils ont de la misère à payer leur loyer qui a augmenté de 50 % depuis un an. C'est ça, la réalité. Alors, c'est la réalité que Camille Samson, qui l'a porté au pouvoir, pour une quantité d'élections à partir de 70.
Ouais. Est-ce que la politique a tant changé que ça? Puis aujourd'hui, je pense que c'est ce matin vers 10 h, il y avait une conférence de presse. Je pense que c'était une conférence de presse qui était planifiée, mais elle a pris un peu plus d'ampleur avec les papiers qui s'étaient écrits pendant la fin de semaine, où on parlait d'une caissière de 70 ans qui travaille dans un dépanneur. La dame travaille 7 jours sur 7. Elle est heureuse de ça. Elle fait son social là. C'est elle qui ouvre le dépanneur. Elle a toujours les mêmes clients. Puis elle est heureuse de ça, mais en raison de la fiscalité, parce qu'à partir d'un certain âge, elle doit recommencer à retirer ses REER, ben là, le gouvernement va commencer à la pénaliser au niveau fiscal. Et ce matin, je m'attendais, Maître Bellemare, à quelque chose d'exceptionnel de la part d'un gouvernement, c'est-à-dire, vous savez quoi? Ça fait des années et des années qu'on parle de la pénurie de main-d'œuvre. Enfin, on va la régler. Au niveau fiscal, pour ce qui est de nos personnes qui sont un peu plus, qui ont plus d'expérience, dépassé 65 ans, bon, on va mettre quelque chose en place qui pénalisera plus ces gens-là. Puis c'est pas ça qu'on a fait. On a carrément dit, regardez, on va mettre 1 million de $, ça va servir à de la formation. Et là, on va envoyer des formateurs dans des entreprises pour qu'ils puissent finir par embaucher des gens qui ont 65 ans et plus. Alors que concrètement, c'est pas de ça qu'on parlait. On parlait de fiscalité pour les gens qui ont plus d'expérience puis qui ont l'âge de prendre leur retraite. Je trouve ça aberrant, la déconnexion parfois entre le vrai monde, dont je fais partie, puis les politiciens qui ont l'impression, eux autres, qui font les bonnes choses, mais en même temps, nous, ce qu'on veut, c'est une fiscalité plus intéressante pour les personnes âgées. J'aime pas ça de dire âgées parce qu'à 65 ans, on n'est pas âgé, mais on veut une fiscalité plus intéressante pour les personnes plus vieilles, pour qu'il y ait justement, pour qu'ils restent sur le marché du travail, puis qu'ils s'éloignent de l'hôpital, Caroline.
Oui, c'est ça. Ben oui, absolument. Mais écoute, les moyens de communication ont changé, mais on a l'impression que les gouvernements ont plus de difficultés à connecter avec les véritables besoins qui sont quoi essentiellement? Le transport, les vêtements, l'épicerie, le logement, c'est un peu ça, là. Et tu sais, quand même qu'on fait un point de presse pour annoncer une nouvelle subvention dans le logement pour rénover ci, rénover ça, transporter ci, transporter ça, puis que ça va coûter 25 millions. Alors, on fait un gros titre avec ça. Le gouvernement investit 25 millions dans tel domaine. Les gens s'en foutent, là, parce que ce qu'ils veulent savoir, c'est eux, dans leur poche, qu'est-ce que ça va changer. Alors, on y va sur des gros titres, des millions, puis on n'a jamais de suite à ça. Faut aussi comprendre que les salles de presse se sont vidées, au fil des années. À l'époque, tu avais dans chaque quartier, dans chaque poste, à CHRC, CJRP, tu avais des journalistes qui allaient sur le terrain, qui couvraient les conférences de presse. Il y avait, dans la ville de Québec, tu avais de la compétition dans la nouvelle locale. où les gens, les journalistes essayaient de traduire ça aussi, le discours politique, pour essayer de le rendre plus accessible aux gens. Aujourd'hui, on n'a plus cette traduction-là. On a un communiqué qui sort, on a l'impression qu'il va être repris intégralement, sans nuance, sans adaptation par le média d'information en question. Alors ça aussi, ça a changé. On n'a plus là, ce genre de couverture de journaliste qui se déplace avec son petit calepin, là, qui écrit trois, quatre notes, puis qui va faire un reportage en direct dans une demi-heure, là. Il n'y en a presque plus de ça, à cause du fait que les médias ont de la difficulté à se financer de plus en plus.
Ouais,
Même à TVA, LCN, on voit une différence par rapport à ce que c'était il y a 15 ans, par exemple.
mais ces gens-là auraient avantage. Puis il y a quelqu'un que j'aime bien chez les libéraux, là, il s'appelle Monsef de Ragy. Puis lui, il fait quelque chose de cool pour un politicien. C'est que quand il est à Québec, il ne se promène pas en voiture, il se promène en Uber, puis il se promène en taxi, puis il pose des questions au chauffeur de taxi. Tu sais, qu'est-ce que tu penses de ci? Qu'est-ce que tu penses de tel dossier? Puis
Ouais, c'est bon ça.
il va au restaurant, puis il jase avec le monde autour. Puis tu sais, Monsef de Ragy, c'est pas quelqu'un qui est extrêmement connu là, à l'Assemblée nationale. C'est un gars qui est pour le Parti libéral. Il fait sa job pour les gens de son coin, mais c'est rare qu'on l'entend parler de Monsef de Ragy. Mais il fait quelque chose de bien, puis je me dis, ça lui sert à rester groundé sur les besoins des gens. Mais.
Ben oui, mais c'est bon. Mais c'est parce que ce gars-là, il faut qu'il ait le pouvoir aussi de rédiger des communiqués, de conseiller les politiciens. Il ne faut pas qu'il garde. Faut qu'il ait le pouvoir de transmettre ça pour que les politiciens, quand ils parlent, atteignent les gens et que les gens se sentent concernés par leur discours.
Oui, effectivement. Mais bref, il se passe beaucoup de choses en politique. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé au Conseil de ville la semaine passée, mais c'est le maire Bruno Marchand qui a été obligé de rasseoir Pierre-Luc Lachance, qui est le gars qui s'occupe du déneigement à Québec. On l'appelle amoureusement Capitaine Bretelle, nous, parce que c'est un politicien qui met des bretelles et c'est assez rare. Mais Pierre-Luc Lachance, en discutant avec Claude Villeneuve, a fait mine de se lever pour sauter par-dessus son bureau pour aller sauter sur Claude Villeneuve. Et le maire Marchand a dû prendre le bras de Pierre-Luc Lachance pour le rasseoir en disant calme-toi, calme-toi. La semaine dernière, ben, Alicia Despins, qui est conseillère à la Ville de Québec, s'est plaint parce qu'il y a un homme qui l'a suivi, un autre conseiller de l'équipe adverse qui l'a suivi du garage jusqu'à son bureau, alors qu'elle lui a dit trois, quatre fois, regarde, la conversation n'est pas appropriée, t'as un ton qui est peut-être beaucoup trop fort pour ce que ça devrait être, il n'y a pas place à l'échange, j'aimerais qu'on arrête la discussion, puis il continuait de l'haranguer. On a confronté le maire Marchand avec ça en disant, mais ben là, est-ce que Pierre-Luc Lachance a voulu vraiment passer par-dessus le bureau pour aller voir Claude Villeneuve? Parce que Claude Villeneuve s'était plaint de ça. Et le maire Marchand dit, non, ces images-là n'existent pas, c'est jamais arrivé, alors que nous, à la station, on a ces images-là. Il y aurait aussi eu une confrontation entre Steve Verrette puis Melançon dans les corridors. On dit qu'on aurait donné des coups de chess, là, comme les gorilles peuvent se faire dans la jungle pour montrer qui est le plus fort. Ça aussi, encore, c'est nié par Steve Verrette. Là, on nous dit qu'il y a des bandes vidéo, mais est-ce que les gens vont pouvoir y avoir accès? C'est donc bien une garderie, la politique, Maître Bellemare.
Bien, l'Hôtel de Ville de Québec, c'est pas grand. Es-tu déjà rentré dans l'Hôtel de Ville de
Oh, oui, je
Québec,
suis
dans le
déjà allé.
bâtiment?
Ouais, je suis déjà allé
Bon,
quelques
alors,
fois.
tu sais, non, mais c'est pas grand, là. Tu regardes ça, tu as une salle de conseil, mais tu sais, en quelque part, ça ressemble quasiment, tu sais, 12, 18 logements, c'est à peu près de la même dimension, là. C'est un vieux bâtiment
Ouais.
avec des lieux, hein, des locaux un peu exigus, là, pas trop, trop vastes, pas trop, trop éclairés, etc. Donc, c'est une vieille bâtisse, une superbe bâtisse, mais c'est une vieille bâtisse. Alors, écoute, à l'intérieur de cette bâtisse-là, là, ça donne que ça se rencontre, hein, quand ça s'en va aux toilettes, ce monde-là, puis ça se parle des corridors, puis nanana, puis ça se regarde, puis bon. Alors, au Parlement, à l'hôtel du Parlement à Québec, c'est beaucoup plus vaste que ça. Et les ministres n'ont pas de bureau au Parlement. Hein. Moi, j'étais ministre de la Justice, mon bureau était sur chemin Saint-Louis, sur la route de l'Église, à Sainte-Foy. Alors, les ministres n'ont pas de bureaux locaux. Ils sont obligés de se réunir quand ils font des meetings dans des salles qui sont adaptées à ça, dans l'hôtel du Parlement. Mais puis les partis sont tous regroupés. Le Parti libéral a ses bureaux, la CAQ a ses bureaux, etc. Donc, les députés ont des bureaux à l'Assemblée nationale, mais pas les ministres. Fait que ça fait en sorte qu'il y a plus d'espace pour respirer. Il y a moins de chances peut-être que la chicane pogne. Mais à l'Hôtel de Ville, moi, la première remarque que je me suis faite, Quand j'ai entendu parler des conflits qu'il y avait, c'est le côté exigu, le côté tout petit de la place, puis le fait qu'on se rencontre souvent, puis qu'on n'a pas le choix que de se rencontrer. Mais quand j'ai vu la sortie d'Alicia Despins la semaine passée, je me suis dit, tu peux pas être insensible à ça, parce qu'Alicia Despins, c'est une femme toute menue, là. Moi, je la connais personnellement. C'est une fille qui a une voix très, 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 très modeste, là. Elle parle pas fort. Une petite voix, une femme, une très jeune, est arrivée au conseil municipal au début de la vingtaine. Elle avait été sur le conseil exécutif du maire Labeaume, elle s'occupait des affaires culturelles. Et là, ça, tu peux pas rester insensé. Mélenchon, ben, c'est un gars qui est un peu plus baraqué. C'est un gars d'abord. C'est un gars qui est un peu plus baraqué. Puis tu l'écoutes, puis tu dis, bon, mais là, lui, il se dit victime de quelque chose, mais il n'a pas le même potentiel de persuasion probablement qu'Alicia Despins. Mais il reste que il y a du monde. Bon, il y a deux facteurs, à mon avis, qui jouent. Le premier, c'est que les gens sont à fleur de peau, autant dans le monde politique que dans la société en général. C'est pour ça que quand tu appelles chez ton dentiste, chez ton docteur, puis chez tu sais, dans le service public, puis privé, il y a une cassette qui tourne puis qui dit fâchez-vous pas, on n'acceptera pas des téléphones violents. Le monde est rendu à bout. On dirait que depuis la pandémie, tout le monde est à fleur de peau. Les gens sont plutôt fragiles. Il y a comme émotivement, tout le monde est un peu fragile. Mais il y a aussi le fait, je pense, que nos politiciens d'aujourd'hui sont peut-être un petit peu plus fragiles que ceux qu'on avait dans les années 70 et 80. Parce que, écoute, dans le temps du maire Lallier, là, quand Arthur est en onde, là, puis la chicane avait pogné d'aplomb, puis que le maire Lallier avait dit qu'il y avait une odeur de purin sur sa ville, là, la ville de Québec, là, dans le temps de la prostitution juvénile, je peux te dire une chose, c'était pas facile. Et pourtant, le maire Lallier avait le contrôle, puis il y avait une opposition aussi, mais tu sais, ça chicanait, ça se regardait de travers, mais on n'assistait pas à ce genre de situation à peu près généralisée de climat malsain qu'on a à l'Hôtel de Ville de Québec. Je suis pas sûr, moi, que dans le temps du maire Lamontagne, quand il construisait des buildings de béton sur la colline parlementaire, puis le monde n'était pas content, je ne suis pas sûr que la tension était moins forte. Mais les politiciens avaient peut-être les épaules un peu plus larges. Peut-être.
Mais qui devrait prendre le contrôle au conseil de ville puis dire aux gens, là, d'un bord comme de l'autre, on a peut-être été un peu loin, faudrait que ça arrête, puis quand on a quelque chose à se dire, faut que ça se dise dans la salle du conseil, puis dans les corridors, on se parle plus de job, on peut se parler de n'importe quoi sauf de job, puis s'il vous plaît, tu sais, quand on a un message à faire passer, il allait peut-être plus par courriel plutôt que de suivre une jeune femme de 25 ans 90, 100 livres dans un stationnement. Ça a comme pas de bon sens. Elle mentionne qu'elle a peur maintenant de se présenter toute seule à l'Hôtel de Ville de Québec. Excusez-moi, Maître Bellemare, j'ai un petit peu de difficulté. C'est peut-être mon petit côté macho en moi là, qui veut défendre tout le monde, mais j'ai un petit peu de difficulté quand je sais qu'il y a une jeune femme qui ne peut pas aller faire son travail ou qui est stressée d'aller faire son travail parce qu'il y a un bonhomme qui veut l'haranguer sur certains dossiers. Ça a comme pas de sens. On veut pas que ces gens-là
Oui,
évoluent dans ce milieu-là. C'est-tu au
puis c'est
maire?
surtout les femmes. Puis on essaie de les amener en politique, on veut les garder, puis on est content quand les femmes s'impliquent en politique. Puis Alicia Despins, c'est un modèle d'implication. C'est une jeune femme qui s'implique en politique, qui pourrait faire bien d'autres choses de sa vie, là.
Mais c'est-tu
Elle a un grand potentiel.
au maire, t'sais, de faire un appel au calme?
Ben moi, j'ai été un peu surpris quand Mélenchon est sorti pour l'histoire du chess, là, qui était la semaine après Alicia Despins. Parce que je revoyais, je réentendais dans ma tête le maire Marchand qui a fait une montée de lait solide. Je pense que c'est l'automne passé à Radio-Canada. Je le vois encore parler à Anne-Marie Dussault, à Radio-Canada, à RDI, des employés municipaux qui étaient victimes d'intimidation de la part de certains citoyens. Puis là, il disait, ça n'a pas de bon sens, puis l'intimidation, c'est intolérable, puis il faut faire quelque chose pour empêcher les citoyens pas contents d'écœurer les fonctionnaires municipaux qui travaillent dehors, puis qui ferment des rues, puis qui sont obligés de faire des travaux, puis etc. Puis je trouvais qu'en quelque part, il y avait raison de défendre les employés municipaux. J'ai été très surpris la semaine passée, quand Mélenchon est sorti, d'entendre M. le maire nous dire, ben là, moi, j'ai pas vu les cassettes, j'ai pas vu les vidéos. Puis c'est de la faute à qui? Puis l'autre, Mélenchon, il a aussi ses torts, puis j'interviendrai pas là-dedans. Puis ça m'a surpris, parce qu'il me semble que c'était la responsabilité du maire de Québec de dire, écoute, moi, je suis le premier magistrat de Québec, là, Je suis le maire de la ville, là. Moi, j'ai été élu par le peuple, là. Parce qu'oublie pas qu'au municipal, on vote pour un conseiller municipal, puis on vote pour un maire aussi, hein. C'est une espèce de mini-régime présidentiel. Le maire est élu au suffrage universel. Alors, il a été élu par la population de Québec. Il me semble qu'il y a l'autorité de la chair, hein, comme le curé en chair, là. Lui est en haut, là, il est au sommet, là, puis il doit parler à ses sujets. Il doit parler au conseiller municipal, au conseil municipal. Puis j'aurais aimé mieux qu'il y ait une intervention plus pacifique, un appel aux bonnes mœurs, un appel au bon comportement de la part de l'ensemble du conseil, sans tirer la roche à quelqu'un, mais au moins qu'il y ait un bon mot, plutôt que de dire, moi, ça ne me concerne pas, puis c'est pas à moi d'intervenir. S'il intervient pour les fonctionnaires municipaux, pourquoi il n'interviendrait pas pour le conseil municipal, qui est quand même l'instance suprême de la capitale nationale du Québec, qui est la ville de Québec.
Exact. Ce matin, deux rendez-vous, je parlais avec le conseiller à la Ville de Québec, qui est dans l'équipe du maire Marchand, Jean-François Gosselin, que j'aime bien, qui est une
Oui.
maudite bonne personne avec qui j'ai toujours du plaisir en entrevue. Puis il m'expliquait un peu ce que vous m'avez expliqué, c'est que la game politique, des fois, il y a beaucoup d'émotions, puis ils peuvent se pogner l'un contre l'autre et tout ça. Puis j'ai dit à Jean-François Gosselin, moi, c'est pas le fait que les gars se chessent puis ils se lancent des pointes et tout ça. Moi, c'est plus le fait que on a des images vidéo où on a un Pierre-Luc Lachance qui tente ou fait mine de vouloir s'en prendre à Claude Villeneuve. On a les images vidéo, Maître Bellemare. Et on s'en va voir avec le micro, on s'en va voir le maire, puis on lui dit, est-ce que Pierre-Luc Lachance a déjà fait mine ou a déjà voulu s'en prendre à Claude Villeneuve pendant le conseil de ville? Et le maire Marchand fait semblant qu'il ne sait pas de quoi on parle. Puis là, on dit, ben, c'est parce
Oui.
qu'on a les images vidéo. Il dit, non, non, c'est jamais arrivé, c'est jamais arrivé, alors qu'on a les images vidéo. T'sais. Donc, ce que j'ai dit ce matin à Jean-François Gosselin, qui est un peu fâché de la tournure des événements la semaine dernière parce qu'on a reçu Alicia Despins, j'ai dit, moi, là, c'est pas le fait que ça se passe, vous aurez toujours un droit de réplique. Moi, c'est le mensonge. Si Pierre-Luc Lachance a bel et bien fait ce qu'on lui a reproché, moi, je l'ai vu sur les images vidéo, fait que je peux encore le dire ce soir, ben, c'est au maire de dire, savez-vous quoi? Ça s'est passé, c'est une joute, il y a de l'émotion, j'ai pris Pierre-Luc, je l'ai rassis, puis je vais veiller à ce que ça arrive plus jamais. Moi, vous aurez jamais de trouble avec moi, là. Il a pas menti, là. Moi, le problème, c'est le mensonge, par exemple. Si le maire n'a pas compris la question de Jean-François Fortin puis qu'il essaie de s'en sortir d'une autre manière, bon, ce sera ça. Mais moi, ce que je veux, c'est que le premier magistrat de la ville me dise la vérité, même si ça me déplaît. Je veux qu'il me dise la vérité parce que si je sais qu'il me ment, il me ment pour ça, il va me mentir pourquoi après, tu sais.
Oui, c'est ça. Il a manqué sa shot là-dessus. Il aurait dû faire preuve de plus d'autorité, plus de prestance dans ce dossier-là qui lui tient à cœur, je le répète.
Ben oui.
On l'a vu sortir sur une base nationale, je me souviens, à l'émission d'Anne-Marie Dussault, le harcèlement, l'intimidation, ça n'a pas de bon sens, mais là, ça a atteint le conseil municipal. Et là, il y a plusieurs conseillers municipaux, Villeneuve, Despins, Mélenchon. Il y a plusieurs conseillers municipaux qui s'en plaignent. C'est pas juste une personne. Ça semble être une forme de façon d'agir au niveau de la ville de Québec. Et ça, je ne pense pas qu'on ait de précédent, mais c'est le rôle du maire Marchand de calmer le jeu. C'est sûr. Puis de saisir toutes les occasions pour pouvoir le faire, qui est à ramener à l'ordre certains de ses commettants.
Maître Marc Bellemare, dernier petit sujet avant la pause, puis on va parler de dossiers un peu plus dramatiques après la pause, ne vous inquiétez pas. Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui de payer cash sans se faire regarder de travers quand on va dans des boutiques? Moi, j'ai été au début, je pense que c'était au début de l'automne, j'ai été me chercher un manteau d'hiver et sur la caisse enregistreuse de la boutique où j'ai acheté mon manteau d'hiver, c'était écrit « Ce magasin n'accepte plus d'argent en papier. Maintenant, vous devez absolument payer avec une carte. » Je pensais que c'était dans l'obligation des marchands, moi, d'accepter l'argent en cash, même si eux autres se faisaient pas leur affaire. J'étais persuadé qu'il y avait quelque chose dans la loi, parce qu'en Europe, il y a quelque chose du genre qui a été mis en place il y a de ça des années, puis tous les commerçants doivent absolument accepter l'argent en papier. Ici, ça a l'air qu'il n'y a pas de problème.
Ben moi, je pense qu'on devrait, en tout cas, je sais qu'il y a des associations de consommateurs, notamment Options consommateurs, qui revendiquent de la part des gouvernements une loi formelle pour obliger tous les commerçants, ou les bureaux qui offrent des services à accepter l'argent comptant. Et moi, je vais te dire, là, personnellement, je paye souvent en argent comptant. Ça dépend de ta façon d'agir, ça dépend de ta façon de gérer ton budget. Pour moi, c'est important d'avoir de l'argent comptant. Quand je fais un dépôt, je vais sortir de l'argent puis je vais payer en argent comptant, que ce soit l'épicerie ou ailleurs. C'est sûr que les milieux où on consomme sont à peu près toujours les mêmes. Tu vas pas souvent au même restaurant, tu vas
Ouais.
souvent à la même épicerie, tu vas souvent à la même place pour gazer, etc. Alors, je trouve ça triste, surtout pour les personnes âgées. Les personnes, surtout dans les campagnes, il y a encore, tu sais, je dirais, là, les 50, 55 ans et plus, là, la plupart continuent de payer en argent. Puis, quand tu as de l'argent dans tes poches parce que tu es payé de telle façon ou tu vas à la banque ou à la caisse pour faire ton dépôt, tu vas chercher de l'argent. À ce moment-là, normalement, tu devrais être capable de payer en argent tout le temps, mais il y a de plus en plus de places où on le refuse, bien que moi, ça m'est pas arrivé souvent. Mais comme je te dis, on va souvent dans les mêmes endroits, puis la plupart du temps, on va dans des endroits où on va accepter l'argent sonnant. C'est pas illégal d'avoir de l'argent sonnant dans ses poches. C'est pas encore illégal de refuser. Mais par exemple, il y a le cas du Massachusetts, qui est un grand État américain, où il y a eu une législation qui a été adoptée dernièrement pour obliger les commerçants à accepter l'argent comptant. Aux États-Unis, moi, je suis allé en Floride l'hiver dernier. Et les gens payent en argent beaucoup, hein. Beaucoup, beaucoup. Walmart, là, je te dirais, là, peut-être quasiment une personne sur deux. J'aurais certainement une personne sur trois qui paye cash. Et puis, on a l'air à s'accommoder plus facilement que ça. C'est sûr qu'avec la pandémie, à cause des questions d'hygiène, il y a beaucoup de commerçants qui ont dit on doit payer avec une carte. Je pense qu'à l'époque, c'était justifié pour éviter la contamination. Puis probablement que il y a moins de manipulation d'argent, moins de risque de contaminer, surtout que dans certains commerces, ce qu'on dit, c'est que c'est souvent la même personne qui s'occupe de la caisse que celle qui s'occupe de la cuisine. Fait que le risque de contamination, de transmission de germes, ça peut être. Ben, les cartes, là, c'est pas même plus propre. C'est sûr que c'est
Ben non,
juste
c'est sûr.
tactile, là. Mais tu sais, quand tu mets ta carte là, pour un montant appréciable, là, puis tu commences à pitonner ton code d'accès, là. Mais là, c'est quoi ça? Le pitonnage, là, c'est quoi la différence entre
Ouais.
la bactérie qui se promène sur la machine pour payer avec la carte, la différence avec l'argent sonnant?
Alors, je suis d'accord avec vous, c'est probablement le même
Toujours du
résultat.
taponnage en quelque
Ouais.
part, hein?
Au niveau des bactéries, ce que j'ai l'impression que c'est que, tu sais, pour la boutique où j'avais acheté mon manteau, c'est vraiment des frais d'administration qu'on enlève. Tu sais, Garda est pas obligé de venir chercher le dépôt chaque soir et tout ça. Fait qu'eux autres, en
Ouais.
étant électroniques, on ferme la boutique, puis toute l'information est transmise à la caisse, puis ils peuvent faire leur comptabilité très, très rapidement. Tu sais, il n'y a pas d'argent cash à compter, il n'y a pas de monnaie à s'occuper, il n'y a pas de tiroir caisse à s'occuper non plus. Fait que j'imagine que les gens s'en vont un peu plus vers là, mais en même temps, pour le Canada, ce serait à quoi l'avantage? Je pense que ça fait l'affaire du gouvernement que tout soit rendu numérique parce que
C'est sûr.
ça laisse toujours
Il y a
des
moins.
traces, là.
C'est ça. Il y a toujours des traces, puis en même temps, ils nous contrôlent un peu plus, puis ils savent combien qu'on gagne. Quand tu es rendu que, tu sais, je sais pas si tu as remarqué la semaine passée, quand le ministre de la Santé a dit, nous autres, on sait combien les médecins vont avoir de patients, puis combien que ça va rapporter.
Ben
C'est
oui.
sûr que les médecins sont
Ben oui.
devenus des fonctionnaires. Le gouvernement, c'est tout. Alors là, plus on sert de la carte, plus on est numérisé. Plus le gouvernement, plus le Big Brother sait où est-ce qu'on va, puis qu'est-ce qu'on fait, puis qu'est-ce qu'on achète. C'est certain. Puis plus il y a des risques aussi qu'on se fasse hacker d'une certaine façon, parce que plus tu utilises souvent ta carte, plus tu as des risques à un moment donné, ça se promène, puis qu'il y a quelqu'un de mal intentionné qui se tombe sur tes informations nominatives et tes cartes de crédit, puis tout ça. Mais il reste que je peux pas croire qu'on va en arriver là, parce que ces associations de consommateurs-là disent il faut qu'on ait une loi. Moi, je ne penserais pas. Je pense qu'on peut peut-être faire plus de sensibilisation. Puis de toute façon, les commerçants qui n'acceptent pas l'argent comptant, puis il y a plein de mononcles qui veulent payer argent en cash, ils vont aller ailleurs, là. Fait que c'est pour le commerçant, c'est à lui de juger dans quelle mesure il va perdre de clientèle,
Ouais.
parce qu'il y a les gens qui ont 60, 65 ans qui payent cash, là. C'est pas des pauvres nécessairement, des gens qui ont de l'argent là-dedans, qui sont capables de devenir des clients intéressants pour ces commerçants-là. Fait qu'il y a quand même un choix à faire. Si tu n'acceptes pas l'argent comptant, ben il y a des clients qui viendront plus chez vous. ou qui ne sont pas trop contents, ça va se savoir.
Ouais, puis le gars qui m'a vendu mon manteau me disait que parfois il y a des Américains qui débarquent aux galeries de la capitale, puis ils ont énormément d'argent en cash dans leur poche.
Ah oui?
Puis eux, ils arrivent avec leur argent, puis ils veulent acheter un manteau d'hiver. Bon, un manteau d'hiver à 500 $, ben ils ont le 500 $ cash. Mais lui, il veut pas perdre une vente. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il prend le 500 $ cash et il prend sa propre carte de crédit pour passer dans la machine. Pour pouvoir avoir sa commission en bout de ligne, t'sais.
OK.
Donc,
ben oui.
C'est lui qui est
ben,
obligé.
Sorte de truc.
Ouais, c'est lui qui est obligé de prendre l'argent en cash, alors que techniquement, ça devrait être la boutique. OK, on va faire une courte pause. Je vous rappelle que le lundi, on est toujours avec Maître Marc Bellemare. Vous l'appréciez beaucoup. Merci, soit dit en passant. Vous m'en avez parlé beaucoup vendredi dernier au match des Remparts. Quand vous avez des commentaires comme ça, moi, je suis preneur. Bon, pour les bêtises, écrivez à Pascal CV, ma collaboratrice. Mais pour ce qui est des bons commentaires, j'ai bien aimé discuter avec vous autres vendredi, puis Maître Bellemare est un des invités les plus appréciés, et pour ma part aussi. On fait une courte pause. Après la pause, on parle de d'autres dossiers avec Maître Marc Bellemare pour des dossiers de CNSST, des dossiers de SAC, d'IVAC, c'est bellemareavocat.ca. On vient.
Marceau, le soir.
Boulevard. 102.1.
Boulevard, fier de vous présenter...
C'est les soirées avec Maître Marc Bellemare qui est au bout du fil. Maître Bellemare qui est toujours dans son bureau avec... Je pensais que vous alliez avoir des belles toiles d'artistes derrière vous. Finalement, c'est des toiles blanches que vous avez dans votre bureau d'avocat.
Oui, il faudrait que tu vois les toiles. Ça, c'est Stéphane Larue. L majuscule A,
ouais.
R majuscule UE. Lui, il travaille, c'est les blancs, mais c'est des blancs dégradés. On ne les voit pas à l'écran, là. Mais quand tu viendras à mon bureau, là,
okay,
je vais te montrer.
C'est des blancs dégradés?
C'est des blancs dégradés, puis ça, c'est plus foncé dans le bas, dans le haut, puis il y a une épaisseur qui varie dans le cadre. Le cadre n'est pas formel, le cadre est un peu dégradé aussi. Donc, il y a une dénivellation en termes de profondeur. C'est très beau,
okay.
Mais évidemment, on ne voit pas ça. Internet ne nous donne pas toujours... En matière d'art visuel, je vais te dire, là, des fois, je regarde des galeries virtuelles qui vendent des tableaux.
Ouais.
Parce qu'il y en a de plus en plus. Hein. Autrefois, on devait se déplacer. Aujourd'hui, c'est comme le reste. Ils mettent des tableaux sur Internet, mais ça ne rend pas toujours justice au tableau. Quand tu le vois en personne, tu vois qu'il est beaucoup plus beau que ce que tu vois sur Internet. Alors, il okay. faut faire attention. Là.
Parce que, ben, c'est ça, parce que je
comme
vois
les vêtements, tu sais.
Oui, voilà, on en parlera tantôt des vêtements, tantôt d'ailleurs. Mais c'est ça, je regardais les tableaux, puis je voyais, bon, c'était deux panneaux blancs, moi, c'est ce que je voyais. Puis je me proposais de vous vendre un panneau blanc à 3 500 $.
OK.
Oui, j'en ai vu chez Canac. À 45$. Donc, je pense okay. que je pourrais faire un bon profit, là. Mais vous me dites que c'est plus travaillé que
oui,
que je pense.
Oui, c'est plus travaillé voilà. pour voir de près puis apprécier le travail de l'artiste. Ouais.
Voilà. On parle d'Amélie Lemieux. Amélie Lemieux, à chaque fois que je pense à elle, je suis débordé d'empathie envers cette femme-là. Elle a été victime d'actes criminels, puis pas à peu près. Romy Carpentier, ça doit vous dire quelque chose. Nora Carpentier, ça doit vous dire quelque chose. C'est la mère des petites Carpentier qui ont été assassinées par leur père. On se souvient que leur père était sur l'autoroute 20 à la hauteur de Lévis et il aurait fait un accident et par la suite s'est sauvé dans le bois et aurait tué ses deux
pas
filles.
Tué.
De savoir oui. que qu'Amélie Lemieux a été abandonnée par l'aide aux victimes d'actes criminels, je trouve ça tragique. Maître Bellemare, comment ça peut arriver?
Ben ça arrive parce que la CAQ a voté une loi complètement ignoble sur les victimes d'actes criminels. On appelle ça IVAC, là, indemnisation des victimes d'actes criminels. Ça existe au Québec depuis 72. Ça fait longtemps, c'est entré en vigueur. C'est Jérôme Choquette, le regretté Jérôme Choquette, qui était ministre de la Justice à l'époque, dans le temps de la crise d'octobre, en 70, il avait vu qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient sauté avec des bombes à Montréal, des victimes innocentes, du crime organisé, du FLQ. Alors, il avait décidé d'adopter une loi qui s'appelait la loi sur l'IVAC, qui est en vigueur depuis maintenant plus de 50 ans. Et la CAQ s'est fait élire en 2018 plutôt, avec la première fois, avec la promesse de réformer l'IVAC. Alors, tout le monde était content. On s'est dit, ben enfin, un gouvernement qui s'intéresse aux victimes de criminels. Sauf que on s'est fait passer un méga sapin parce que parmi certaines avancées, ou par exemple la nouvelle loi qui est en vigueur depuis octobre 2021, permet d'indemniser, par exemple, des gens victimes d'actes criminels à l'extérieur du Québec, le gouvernement a décidé de couper l'indemnisation en termes de temps. Parce qu'avant, si tu étais invalide, tu étais payé à vie. tu avais ton remplacement de revenu le reste de tes jours. Alors que là, le ministre Jolin Barrette a décidé de couper ça en 3 ans. Et là, le problème, c'est que les victimes qui étaient payées en octobre 2021, dont Amélie Lemieux, la mère des deux jeunes filles qui ont été tuées, l'événement est survenu en juillet 2020. Alors elle, à partir d'octobre 2021, a continué d'être indemnisée, mais là, le gouvernement dit, mais là, c'est la nouvelle loi, donc on te paye jusqu'en octobre 2024. Alors, je ne sais pas si tu le sais, mais perdre ses deux enfants criminellement, ça a un impact majeur pour la dynamique de la personne, dépression, stress post-traumatique, et elle n'est pas capable de retourner travailler en octobre 2024. Elle va souvenir, là. Puis depuis le mois de janvier, les victimes d'un criminel ont reçu un téléphone sympathique des fonctionnaires de l'IVAC qui leur dit, bien, monsieur, madame, à partir d'octobre 2024, ça va être terminé pour vous. Alors là, on a un méga problème avec ça parce qu'on se retrouve avec une loi qui est complètement inhumaine et qui fait en sorte que les indemnités ne seront pas établies selon la véritable capacité, l'état de santé de la personne. Tu sais, en accident de travail, là, si tu es victime d'un accident et tu as l'épaule défaite, là, s'il faut que tu arrêtes de travailler pendant 5 mois, tu vas te payer 5 mois.
Ouais.
Puis si tu arrêtes 5 ans, tu vas te payer 5 ans. Ça dépend de la complexité de la blessure, des résultats opératoires, les thérapies, la médication, etc. Ça dépend de la gravité de la problématique. Alors, au niveau des victimes d'actes criminels, ça devrait être la même chose. Mais là, le gouvernement a décidé de mettre un stop après 3 ans, sans aucune raison particulière. Donc, à l'intérieur des 3 ans, c'est selon les rapports médicaux, mais à partir de la 3e année, c'est terminé. Alors là, Amélie, qui est complètement dévastée, c'est ce que je lui disais la semaine dernière, tu es victime d'un acte criminel d'abord, après ça, tu es victime du gouvernement de la CAQ ensuite.
Elle mentionne, Maître Bellemare, elle dit « Si j'avais fait un accident d'auto, puis qu'il me manquait une jambe, la SAAC m'indemniserait à vie. Là, moi, j'ai pas fait d'accident d'auto. On m'a littéralement arraché le cœur à froid et on me donne 3 ans pour m'en remettre. »
Oui, c'est ça. C'est complètement ridicule. Parce que, évidemment, c'est variable d'une personne à l'autre. Yannick, tu le sais, hein? Bon, selon que tu es plus âgé, moins âgé, un homme, une femme, une certaine fragilité émotive que tu as ou que tu n'as pas, il n'y a pas une personne pareille. Moi, je vois des victimes dans mon bureau depuis 45 ans. Il n'y a pas une personne pareille. La question, c'est de savoir comment tu vas réagir à tel ou tel traumatisme. Il y a des gens qui vont s'en remettre beaucoup plus vite. Tu sais, dans la fameuse fusillade de la mosquée, de Québec, qui a eu lieu, je pense, c'est le 29 janvier 2017, il y a eu beaucoup plus que 12 personnes qui ont été tuées ou blessées.
Ouais.
Il y en a eu peut-être une centaine au total. Les enfants, les femmes, les épouses, les spectateurs, etc. Il y en a qui sont retournés travailler au bout de 6 mois, là. Puis il y en a d'autres qui sont encore en arrêt de travail aujourd'hui. Alors, ça dépend de ta vulnérabilité, ton âge, ta structure mentale, et tu peux pas dire, on va mettre ça dans 3 ans, puis tout le monde dans le même frame. Et c'est ça le problème de la CAQ. Ils ont voulu sauver de l'argent, mais en même temps, ils vont mettre à la rue, puis ils vont mettre en faillite des milliers de victimes. Et c'est à partir de l'automne 2024 que ça va commencer à apparaître, parce que comme la loi est entrée en vigueur en octobre 2021, 3 ans, ça nous mène en octobre 2024. Fait que ça va être une année de misère pour beaucoup de victimes. Mais je ne sais pas si la CAQ va finir par entendre raison, mais on va certainement se mobiliser pour essayer de les faire bouger au cours d'automne prochain.
Amélie Lemieux dit « Pourquoi on me met au même niveau qu'une personne qui a mangé une claque dans un bar? Je n'ai pas perdu ma paire de bas préférés. J'ai perdu mes enfants subitement à cause d'un acte criminel. » Est-ce que François Legault a réfléchi à ça? Ça en dit beaucoup là, sur sa pensée, puis tous ceux qui ont de l'empathie pour elle doivent être extrêmement touchés. Est-ce que l'IVAC, dans son cas, l'a dédommagé, elle?
Oui, bien là, elle est indemnisée actuellement.
Okay.
Elle va l'être certainement jusqu'en octobre 2024. Le problème, c'est de savoir, tu sais, c'est pas parce qu'on met une échéance à ton indemnité que tu vas guérir par magie. Alors, le problème, c'est qu'il y a des gens, peut-être qu'Amélie, ça va être son cas. J'espère qu'elle va vivre une année un peu plus sereine et qu'elle va réussir à s'en sortir, mais ça m'étonnerait parce que le traumatisme est encore très vivant. On lui parle, on la voit, on l'écoute, puis on voit qu'il y a une blessure immense à l'intérieur. Et thérapie, médication, alors elle suit son plan tant qu'à peu, mais c'est plus difficile de guérir ou d'améliorer une condition psychologique qu'une condition physique. Une blessure à l'épaule, une hernie discale, ça peut laisser des séquelles, mais on guérit parce que c'est de la peau, c'est des ligaments, c'est de la chair, c'est du sang, c'est vascularisé. Le médecin s'occupe de vous opérer dans le dos, vous allez finir par vous améliorer. Au niveau psychique, c'est beaucoup plus lent parce qu'on n'a pas de moyens d'intervention. On travaille avec une tête, avec des émotions. On ne travaille pas avec un bras, avec une jambe, avec un dos. On ne travaille pas avec du matériel, comprends-tu? Alors, c'est pour ça que c'est plus long. Puis comme les victimes d'actes criminels, essentiellement, sur IVAC, sont des victimes d'agressions sexuelles, de meurtres, de tentatives de meurtre, des invasions de domicile, ça laisse des séquelles graves et ça peut prendre facilement plus que 3 ans avant de se remettre de ça et d'être capable d'aller chercher assez d'énergie pour gagner un salaire. Parce que la question, c'est ça, c'est du remplacement de revenus. Alors, c'est pas parce que tu es mieux que tu es nécessairement capable de fournir à un patron une prestation de travail sous pression, comme tu le fais, toi, dans ton travail. Il faut que tu aies une tête, il faut que tu aies toute ta capacité, il faut que tu aies ton équilibre mental qui va te permettre de gagner ta vie. Puis si tu es obligé de changer de job, c'est encore plus exigeant parce que tu as fait tel travail dans lequel tu t'es accompli pendant 20 ans, mais là, tu n'es plus capable de le faire. Tu es obligé de te réorienter. Fait que là, il y a comme une rééducation. Il faut que tu réapprennes à travailler dans un autre domaine, ce qui vient compliquer l'affaire. Alors, c'est vraiment pas facile. La CAQ, on le voit dans le dossier des Kings de Los Angeles, les augmentations de salaire des députés, on voit qu'il y a des clips, là. Tu sais, il y a des choses qui nous démontrent que ce gouvernement-là manque de jugement. Dans le dossier de l'IVAC, les victimes de criminels, c'est encore plus évident. C'est moins présent dans la tête des gens, c'est moins dans l'actualité. Mais c'est dramatique pour les victimes au Québec, là. C'est un mauvais gouvernement pour elles, ça, c'est sûr.
Et la CAQ qui mange un autre coup dur avec les Kings, parce que les Kings, eux, vont aller à Salt Lake City, et ce, sans subvention. Pas besoin de vous dire que les groupes d'opposition, que ce soit le PLQ ou les autres groupes, disent que c'est gênant ce qui se passe actuellement. Puis Girard devrait s'excuser de vouloir dépenser l'argent des Québécois dans ce dossier-là. Ah, je vous dis, la CAQ, c'est assez particulier, là. J'ai l'impression qu'on assiste à la fin d'un règne, quoique les élections sont déjà sont dans très longtemps, fait que tout peut changer, là. Peut-être qu'il arrivera quelque chose de dramatique, là, que fera le Parti québécois qui va faire en sorte qu'il n'y a plus personne qui va voter pour eux. Mais actuellement, le Parti québécois a la cote, mais la CAQ, on dirait qu'il ne cesse de s'enfoncer, tu sais. Mais dans le dossier d'Amélie Lemieux, on ne peut pas mettre un astérix, exemple, sur quand c'est criminel?
Bien, c'est toujours criminel. C'est l'IVAC, c'est par définition, ouais. C'est des victimes de criminels.
Mais pour la SAAC?
Bien, si c'est un accident d'automobile criminel qui survient sur la route, bien, c'est la SAAC qui paye. Un acte criminel sur la route, c'est la SAAC qui est le premier payeur, c'est pas ouais. L'IVAC. Un acte criminel au travail. Par exemple, tu es serveur, toi, dans un bar, puis tu te fais tabasser par un client, tu vas être sa CSST parce que c'est arrivé au travail.
Voilà.
Un acte criminel qui n'est pas la SAC, qui n'est pas la CNSST, c'est un acte criminel qui survient ni au travail, ni sur la route.
OK.
Alors, c'est ce qui est arrivé à Amélie Lemieux.
OK, je comprends très bien. Maintenant, on parle des médias sociaux. Nous versus l'employeur, on nous dit que nos médias sociaux peuvent devenir notre pire ennemi au travail. Pourquoi, M. Bellemare?
Bien, parce que, écoute, si tu es sur la CNSST ou que, je ne sais pas, moi, tu es sur un régime d'assurance, OK? Tu t'es blessé une entorse cervicale ou tu t'es blessé un œil, puis tu es payé par Desjardins ou par Standard Life ou par, je ne sais pas, Great West ou un assureur quelconque. Puis là, tu t'as un mur Facebook, là, puis tu t'en vas te montrer en bédaine, c'est une chaloupe en train de pêcher avec la grosse bière, là. Penses-tu que ça n'aurait pas d'effet?
Ça peut paraître très mal.
Ben non, c'est ça. Puis c'est parce que ces informations-là peuvent être publiques parce que tu les diffuses à vaste échelle, tu les partages avec des centaines, des milliers de personnes, mais tu ne peux plus invoquer après ça ta vie privée. C'est pas comme le gars qui se fait filmer dans son salon à travers une vitre par un enquêteur de la CNSST, où là, ça devient privé. Parce que là, tu es dans un espace privé auquel tu ne donnes pas accès. Mais il faut comprendre que si tu partages des photos, si tu partages des expériences, juste le fait de savoir que tu es en voyage, OK? Tu as un problème de dos immense, Les médecins disent que tu dois changer de position à peu près à toutes les 20 minutes parce que tu as une intolérance posturale. Tu n'es pas capable de rester assis longtemps. Mais en même temps, tu t'en vas aux îles Canaries, c'est 6h30 de vol non-stop. Alors, comment tu fais pour faire 6h30 de vol quand tu dois changer de position aux 15 minutes? Si tu vas sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment, Instagram, puis tu te montes sur un beau côté, un beau jour, à ce moment-là, l'employeur qui peut contester ton indemnité à CNSST ou l'assureur peut se servir de ça pour mettre fin à tes prestations si les images que tu projettes prouvent une activité qui n'est pas compatible avec l'état de santé qui est rapporté par les médecins. C'est assez simple, là. Alors, je le dis parce que ça fait l'objet d'une chronique d'un de mes amis, Bernard Clich, qui défend les employeurs dans ce genre de dossier-là, puis qui nous dit, écoutez, les employeurs ne sont pas gênés de se servir de ces informations-là. Fait que si tu as un mur Facebook, puis tu te montes en bédaine ou sur une pente de ski, en train de faire du ski, puis tu te vantes de ça, en même temps, tu es en incapacité parce que tu as eu une blessure au genou, bien, attends-toi à ce que ça ait des répercussions. Et c'est sûr que tu peux pas, les gens peuvent pas aller fouiller dans tes images, dans ton téléphone, mais sur les réseaux sociaux, si tu diffuses, puis que tu acceptes de partager tes informations avec une personne qui s'invite dans ton monde, bien, des fois, c'est l'employeur qui va s'inviter dans son monde, ou c'est un collègue de travail, ou c'est ton ancien contremaître qui veut savoir comment ça va, puis tu acceptes de partager tes informations avec ce gars-là, et lui, il va peut-être aller pisser ça dans la tête, dans l'oreille de l'employeur, qui va commencer à te contester,
de l'assureur. Je comprends, dans des dossiers un peu plus lourds, effectivement, quand il y a des problèmes avec un genou, puis la personne réclame à la CNSST, puis après ça, on la voit sur les réseaux sociaux à faire du ski ou encore du snow, on comprend qu'il y a comme une incohérence, là. Mais dans le cas d'une dépression, lourde, là, une grosse dépression, c'est pas interdit pour ces gens-là d'aller dans le sud pour se changer les idées, là.
C'est pas interdit. C'est sûr que c'est pas interdit, Yannick. Mais tu sais, il y a des choses... Tu sais, moi, ce que je dis, des fois, j'ai des clients qui me disent « Ouais, ben là, est-ce que je peux faire ci? Est-ce que je peux faire ça? » Alors, moi, de façon générale, quand tu as un problème de santé physique, épaule, genou, pied, dos, cou, la moto, là, c'est non. Pas compliqué. « Oui, mais ma moto est parfaite, puis moi, j'ai une belle moto confortable, puis je force pas. » C'est non. C'est non, parce que les gens qui vont avoir à juger de ton état de santé, s'ils savent que tu fais de la moto, tu as une grosse moto, tu mets le pied à terre, tu es en équilibre par rapport à ça, tu as une bonne concentration, ça prend quand même des aptitudes, une bonne concentration, une bonne force physique, il faut que tu sois vigilant sur une moto. Tu peux pas dire que tu as une épaule de fini, puis en même temps, tu fais de la moto. Il y a comme un problème. Les chaloupes, c'est la même affaire. Tu t'en vas à la pêche. Ah, oh, ben, je fais rien, je fais rien qu'à la pêche, je m'installe, puis je pêche. Oui, mais tu es assis pendant 6 heures dans ta chaloupe, tu es instable, tu dois faire un peu de portage, tu dois marcher dans le bois. Alors, tu sais, il y a des activités qui sont un peu comme, tu sais, à risque. Tu peux y aller en chaloupe, mais si tu te fais filmer en train de pêcher une bonne journée de temps, puis que tu dis que tu as mal dans le cou, que tu as mal dans le dos, que tu as mal à l'épaule, tu vas peut-être avoir des problèmes de crédibilité. Je te dis pas que tu vas nécessairement être coupé. Mais il faut toujours que tu te mettes dans la peau de la personne qui te regarde, puis qui, elle, a des préjugés gros comme le bras. Puis tu leur dis aux victimes, toi, là, avant que tu aies mal dans le dos, ton accident de travail, là, qu'est-ce que tu pensais des gens qui étaient sur la CSST? Tu disais, ah, on sait bien, hein? On est-tu bien sur la CSST? Il s'en va à la chasse à l'automne. Tout le monde tombe sur la CSST pour aller à la chasse. Peut-être. C'était des préjugés que tu avais. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui te regardent aller, puis qui ont les mêmes préjugés. Alors, il faut que tu te mettes un peu dans leur peau aussi, puis il faut pas te mettre dans des situations où tu pourrais prêter à interprétation, susciter des doutes. Les voyages en avion, c'est un petit peu ça que ça apporte. T'sais. Tu marches longtemps, tu es dans des aéroports, surtout des vols intercontinentaux. Quand tu t'en vas aux îles Canaries ou quand tu t'en vas en France, il y a un décalage horaire en plus de ça. Ça prend de l'énergie pour faire ça. Alors, il faut toujours... Attends-toi à répondre à des questions. Tu as le droit d'y aller, là, mais attends-toi de répondre à des questions. Mais c'est pas illégal d'y aller. Mais tu vas peut-être susciter un certain nombre de questionnements.
Dernier sujet de la soirée avec Maître Marc Héroldi Bellemare. On parle de la loi sur le code vestimentaire.
Ouais. Alors, il y a eu un article dans la presse que j'ai trouvé pas mal le fun en fin de semaine. Ça s'appelait « S'habiller mou ».
Oui.
Toi, là, est-ce que tu... Maintenant, tu vas avoir un avocat, là.
Je m'habille avec un polo.
C'est tellement de bonne vie que ça t'arrive jamais, là. Ouais. Mais mettons que tu vas avoir un avocat, puis l'avocat, il te reçoit avec un... je sais pas, un t-shirt puis un short.
Polo.
Vas-tu être rassuré?
Polo, un petit polo. Un petit polo, tout simplement, mais si l'avocat me reçoit en short, ben si c'est vous, c'est correct, mais sinon, ça passe pas.
Oui, c'est ça. Parce qu'on s'attend à voir, tu sais, l'habit ne fait pas le moine, mais en même temps, on s'attend quand tu vas voir un médecin, quand tu vas voir un comptable, quand tu vas voir un architecte, quand tu vas voir un avocat, un notaire pour régler un contrat, quoi que ce soit, tu t'attends à voir quelqu'un qui va être habillé, chemise, cravate, peut-être veston, etc. À la cour, ben il y a tout un protocole. Mais ça donne un certain sérieux à la fonction. Alors là, il y a comme une tendance qui s'appelle s'habiller mou, où là, on laisse de côté un petit peu la cravate pour les hommes, on laisse de côté, bon, pour les femmes, on s'habille un peu yo, un peu plus, là. Alors, ça crée des difficultés. En même temps, la loi sur les normes du travail n'exige rien, hein. Et même les codes de déontologie, là, comme avocat, tu peux t'habiller comme tu veux, là. Mais le code de déontologie dit que tu dois faire honneur à la profession. Pour le barreau, pour les médecins, c'est la même affaire. Tu ne dois pas être habillé, déglingué, tout croche, mais tu dois faire honneur à la profession, c'est-à-dire tu dois t'assurer que tu ne porteras pas préjudice à l'image de la profession. C'est assez vaste comme concept. Ça permet bien des choses. Chose qui est sûre, c'est que si l'employeur exige un vêtement particulier pour travailler, il est obligé de le payer seulement et seulement si t'es au salaire minimum, parce que si tu gagnes 25$ de l'heure, il peut exiger un vêtement particulier sans le payer.
Bon.
Il a le droit. Il est obligé de le payer si le coût du vêtement fait en sorte que tu vas travailler moins qu'au salaire minimum, parce que tu es obligé de payer ton vêtement, ce qui va faire en sorte que tu vas aller chercher un salaire qui va être inférieur au salaire minimum. Autrement, il n'est pas obligé de payer pour ton vêtement, quoique la plupart des employeurs le font.
Maître Bellemare, c'est toujours un plaisir de vous jaser. On apprend plein de choses. On se donne rendez-vous lundi prochain. Merci d'avoir été des nôtres.
C'est beau. Bonne semaine, tout le monde.
Même chose pour les auditeurs. Je vous souhaite de passer une belle soirée. Puis on se rejase demain, 11h, pour ce qui est de Marceau le midi. Bye-bye. Merci.
Marceau le soir.
Immortalisez les plus beaux moments de votre